Moi aussi de ma part, je voudrais vous souhaiter à tous les bienvenus et vous saluer cordialement. Et tous ceux qui sont aussi, qui suivent en direct, qui sont en direct, qui suivent online, dans le monde entier, nous vous saluons tous et nous vous souhaitons les riches bénédictions de Dieu. Nous avons des salutations de la Russie, des salutations de Moscou directement, de l'Ukraine, de Donetsk et de la Moldavie, et d'Atlanta, des États-Unis, des salutations de Montréal au Canada, des salutations de Edmonton, des salutations de British Columbia, des salutations du frère Wallström, des salutations du frère Graf, des salutations des frères de Libreville au Gabon, des salutations de Luanda, Angola, des salutations de Johannesburg, des salutations de Kapstadt, des salutations de Nairobi, des salutations du Congo, particulièrement de Dr Mbillé, des salutations de Brazzaville, des salutations de Bruxelles, de Paris, et deux fois il y a les salutations du Chili. J'ai arrêté d'écrire, il y avait beaucoup encore d'autres salutations. C'est merveilleux d'être en contact avec tant de frères et de sœurs et de pays dans le monde entier. Nous avons encore dans les derniers jours de l'année échangé des centaines de mails qui sont liés avec nous et avec le Seigneur. Le frère Kupfer a lu dans le livre de Cantique, la Pentecôte, le Cantique 81, on ne va pas le chanter, mais je vais lire le premier et le dernier refrain. Que Jésus soit la solution, puisqu'une nouvelle année a commencé, que le nom de Jésus seul soit le drapeau de tous ceux qui sont dans son alliance et qui marchent dans son chemin. Que tous les soucis, que toutes les difficultés soient remis sur lui et que son nom rende agréable toutes les épreuves par lesquelles nous puissions passer. Le nom de Jésus soit ton soleil et ta protection et ton bouclier pendant les épreuves. Merci, frère Kupfer. Et nous sommes simplement très heureux et reconnaissants, très reconnaissants à Dieu. Je voudrais, pour la fin de cette année passée aussi, pour le commencement de cette année, pour la fin de l'année passée, je voudrais lire le psaume 65, le psaume 65, verset 12, psaume 65, verset 12.
Tu as das Jahr gekrönt,
tu as couronné l'année de tes biens et tes pas versent l'abondance. Nous pouvons réellement le dire que Dieu a puissamment béni l'année passée. Le couronnement était maintenant en Amérique du Sud, particulièrement au Brésil, alors que plus de 2000 personnes étaient rassemblées et que j'ai eu la possibilité trois fois de parler et 300 prédicateurs, 320 prédicateurs étaient présents. C'était donc au Brésil la réunion de la fin de l'année là-bas et Dieu réellement a béni et a accordé sa grâce au-dessus de tout ce qu'on pourrait penser et demander. On ne veut pas entrer dans les détails, mais en donnant un résumé, On peut dire que Dieu a couronné l'année de sa grâce, un don particulier, un cadeau particulier que j'ai reçu, que je reçois de la main du Seigneur a eu lieu en Indonésie. En Indonésie, ça avait eu lieu là-bas. Donc c'est le plus grand pays islamique du monde, l'Indonésie. Et la Bible existait là-bas avec... étant imprimé avec partout le nom de Dieu, comme donc exprimé en tant que Allah. Et combien de fois dans la Bible le mot Allah est écrit dans leur langue? Le mot Allah a sa place dans le Coran et pas dans la Bible. Et c'était vraiment une tristesse pour moi à chaque fois que j'étais là-bas et que je prêchais et que je disais Dieu, le traducteur disait Allah. Jusqu'à qu'un jour, je me suis senti vraiment très mal et j'ai dû dire, s'il vous plaît, non, ne dites pas Allah, mais traduisez Elohim et pas Allah. Et voilà que nous avons un très bon frère, docteur Ditoye, quelqu'un avec qui donc j'ai pu échanger mes requêtes et qui était aussi présent lors de la traduction du Gédéon. Et je lui ai dit, écoute, fais en sorte, avec la grâce de Dieu et l'aide de Dieu, qu'une nouvelle Bible soit traduite là-bas à Jakarta, parce qu'il est dans le comité de traduction. Et ici, dans ma main gauche, c'est la vieille traduction avec Allah partout, et ça, c'est la nouvelle traduction avec Elohim. Avec Elohim partout. Et Yahvé, même écrit en grand caractère, Yahvé toujours en grand caractère dans toute cette Bible. Une fois Allah, et ça on peut maintenant tous la mettre de côté, et la nouvelle traduction avec Elohim, Yahvé, dans cette belle Bible. Nous sommes très très reconnaissants à Dieu pour cela, de ce que cela a été possible. Et aujourd'hui, je veux traduire une prédication. Elle dure peut-être 37 minutes. Mais avant que nous le fassions, je voudrais lire 2-3 versets qui concernent l'année du jubilé. Dans Lévitique chapitre 25. Et ma prière monte au trône de Dieu que cette année soit une année de jubilé, une année de délivrance, une année dans laquelle tous nous revenons à notre propriété originale. Que ce soit dans les familles, que partout dans le peuple de Dieu, la bénédiction de Dieu soit présente. Dans Lévitique chapitre 25, verset 10. Lévitique chapitre 25, verset 10.
So dass das 50. Jahr heilig ist und sollt im Land.
Et vous sanctifierez la 50e année, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Pas seulement en possession, pas seulement revenir en possession, mais aussi les familles doivent de nouveau être ordonnées par Dieu. Tout doit être rétabli dans l'état primitif par la grâce de Dieu. Ensuite, dans Luc, l'évangile de Luc chapitre 4, ce verset très connu de notre Seigneur, alors qu'il lisait dans le prophète Ésaïe, dans Luc le chapitre 4, à partir du verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Cette année était une année de jubilé. Et c'est ainsi que par la prédication de l'Évangile, cette année de jubilé, cette année de grâce est propagée, est annoncée, est prêchée, et heureux sont tous ceux qui l'acceptent. En ce qui concerne les événements actuels, particulièrement Israël et aussi la ligne de Gaza, nous n'allons pas pendant ce week-end pouvoir entrer dans les détails de ces choses, parce que réellement, nous avons quelque chose de plus important à considérer. Mais si déjà maintenant nous écoutons cela partout dans les nouvelles, il s'agit réellement seulement d'une ligne qui est longue de 43 kilomètres et à l'endroit le plus étroit, 40 kilomètres de largeur, et c'était cette région qui n'avait pas été entrée en possession par le peuple d'Israël autrefois, et c'est ainsi que cette région est devenue pour le peuple d'Israël un problème. On peut le lire dans Juges, le premier chapitre, verset 18, Juges, chapitre 1, verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Ascalon et de son territoire, et d'Ekron et de son territoire. Et ensuite suit la description. En allemand, il est dit: Judas ne put s'emparer de Gaza et de son territoire. Ensuite, dans le prophète Sophania, au chapitre 2, ici, il nous est montré, dans Sophonie, au chapitre 2, je lis seulement, rapidement, dans Sophonie, le chapitre 2, Sophonie, c'est après Habakkuk et avant Agée. Ici, il est écrit, chapitre 2, au verset 4, car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Ashdod sera chassée en plein midi, et Ekron sera déracinée. Ensuite, le verset 7, dans Sophonie 2, ces côtes seront pour les restes de la maison de Juda. C'est là qu'ils paîtront. Ils reposeront le soir dans les maisons d'Ascalon, car l'Éternel, leur Dieu, ne les oubliera pas et il ramènera leurs captifs. Quand le Seigneur, leur Dieu, ne les oubliera pas et ramènera leurs captifs. En ce moment, les Israélites sont encore en train de vouloir eux-mêmes changer leur destin. Mais le jour arrive où le Seigneur lui-même, en raison de ses promesses qu'il a données, n'oubliera pas son peuple, ramènera son peuple et changera leurs captifs. Le prochain verset là-dessus, dans Zacharie le chapitre 9, ici nous avons, dans Zacharie le chapitre 9, de la même manière, au verset 5 et 6, Zacharie chapitre 9, verset 5 et 6, Ascalon levera et elle sera dans la crainte. Gaza aussi et un viol tremblement la saisira. Et Cron aussi, car son espoir sera confondu. Le roi disparaîtra de Gaza et Ascalon ne sera plus habité. Seulement ces versets-là pour ce passage, pour cette partie, pour ce sujet qui est en train de se dérouler, et encore un autre sujet, il a été annoncé du Vatican qu'il n'y a qu'un seul sur terre qui peut prendre soin pour la paix et la sûreté. Et ensuite, il est parlé de ce qu'il y aura une visite qui aura lieu du Vatican donc à Jérusalem. Quand j'entendais ces deux mots-là, sûreté et paix et sûreté, ces deux mots ont été utilisés. Et ils ont dit qu'il n'y a qu'un seul sur terre qui peut prendre soin, qui peut procurer la paix et la sûreté. Et nous pensons tout de suite, n'est-ce pas, à 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, quand ils diront paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra l'humanité, comme les douleurs de l'enfantement qui surprennent une femme enceinte. Bien aimés frères et sœurs, nous sommes réellement reconnaissants à Dieu pour sa sainte et précieuse parole. Et quand nous considérons Matthieu 24 et que nous lisons ce chapitre-là lentement, alors nous trouvons au verset 25 la remarque faite: je vous ai dit toutes choses à l'avance. Je vous ai dit toutes choses à l'avance. Il n'y a rien qui peut vous surprendre, s'il vous plaît. Soyez attentifs seulement à l'accomplissement des prophéties bibliques et des prédictions. Et encore à cela, nous devons simplement savoir que Dieu, réellement, au-dessus de toute mesure, nous a accordé sa grâce. Que nous ayons la grâce de cette manière de voir les déroulements et de voir la parole s'accomplir sans fatigue, sans effort, mettre les choses à leur place dans leur accomplissement. Ça, c'est une grande grâce. Et maintenant, je voudrais que nous puissions écouter une courte prédication de frère Branham, à peu près peut-être 37 minutes. Je ne vais pas traduire le service de prière. Nous connaissons le ministère de frère Branham et nous savons comment est-ce que Dieu réellement, à chaque fois, lui révélait qui était la personne pour laquelle il priait, quel était son nom, quelle était l'origine de son problème et quelle était la maladie qu'elle avait. Mais le texte m'a touché déjà et je pense que nous voulons avec toute la confiance entrer dans la foi dans cette nouvelle année. Nous savons que c'est Dieu lui-même qui a pris toute responsabilité pour son peuple et tel que il se tournera à Israël, n'oubliera pas Israël et ramènera ses captifs. C'est ainsi qu'il ramènera l'Église dans son état primitif et qu'il ramènera nos captifs. Sentez-vous bien et nous vous souhaitons aussi à tous ceux qui sont ici, peut-être pour la première fois, nous vous souhaitons d'Abidjan, des différents pays, de l'Afrique, de toute l'Europe, oui, du monde entier. Que Dieu le Seigneur nous bénisse tous et soit avec nous tous. Le sujet, frère Branham va lui-même l'annoncer. Il s'intitule « Dieu est son propre interpréteur, est son propre interprète. Nous voulons prier. Notre Père Céleste, une parole de toi signifiera plus que toutes les paroles que tous les hommes pourraient dire. Car le peuple de Dieu s'attend à ta parole. Et nous te remercions, Seigneur. Car il y en a ici qui sont dans une grande attente. Ils sont dans une grande attente que quelque chose se passera. Et ils ont soif de la profondeur. Ils appellent la profondeur. Et c'est peut-être raison que nous sommes ici ce soir rassemblés. Et c'est dans le cœur des prédicateurs que nous puissions être rassemblés pour te demander de nous bénir. Et nous croyons que tu guéris les malades et que tu sauves ceux qui sont perdus et que tu confirmes ta parole. Père, nous te demandons que tu puisses nous l'accorder. Nous nous attendons à toi. Que ce soir, un tel déversement du Saint-Esprit ait lieu d'une manière que à tous les yeux soient ouverts et que tu puisses bénir. Nous avons un cri, un désir dans notre cœur. Oh, que tu puisses envoyer un réveil. Que tous soient d'une manière nouvelle saisis. Et que Dieu, oh Dieu, tu puisses manifester ta miséricorde et que ceux qui sont paralysés marchent et que ceux qui sont malades soient guéris. Oui, mais même que les morts ressuscitent. Oh, viens Seigneur Jésus et remplis, accomplis tes promesses. Parle toi-même avec nous. Nous croyons que tu es encore aujourd'hui le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Tes promesses ne peuvent jamais manquer et faillir. Nous le comprenons, ô Seigneur, que le Saint-Esprit puisse produire cet effet en ouvrant notre intelligence, notre compréhension par la puissance du Saint-Esprit, par sa parole promise, qu'elle puisse nous être manifestée. Nous te le demandons dans le Saint Prêcheur de notre Seigneur Jésus. Bon, aujourd'hui, nous allons lire un texte de 2 Pierre, en commençant avec le verset 16. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Mais c'est comme ayant vu sa majesté de vos propres yeux, de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et nous avons la parole prophétique solide que nous possédons. Et nous devons y prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que, il continue à lire le verset maintenant, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Que Dieu puisse accorder sa bénédiction à la lecture de sa parole. Mon sujet s'intitule « Dieu est son propre interprète ». Nous vivons dans un jour de confusion. Des hommes ne savent pas ce qu'ils doivent faire. Tout semble être dans un état de confusion. Et cela semble qu'il y a différents chemins et personne ne sait comment aller de l'avant. Dieu ne peut pas juger de manière juste l'homme, si ce n'est qu'il y ait un échelon, qu'il y ait un standard, un modèle par lequel il jugera. Et la Bible dit que c'est par Jésus-Christ que tout sera jugé. Et il est la parole. Jean 1, verset 1, au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole est devenue chair et a habité parmi nous. Vous voyez? D'abord, Dieu était pour lui seul, habitait seul dans l'éternité, et nous l'appelons l'éternel. Et le mot Dieu signifie objet d'adoration. Il était l'éternel avec tout ce qui était en lui. Lui qui est la source originale de tout ce qui existerait. Il n'y avait pas encore d'étoiles, il n'y avait rien qui existait, seulement Dieu. Lui qui est esprit, il était d'éternité en éternité et il demeure jusqu'à dans toute éternité. Mais en lui, il y avait des attributs et ces différents attributs devaient s'exprimer. En lui, il y avait l'attribut d'être père. En lui, il y avait l'attribut d'être fils, d'être sauveur, d'être celui qui guérit. Tout était en lui. Et ces attributs, ces choses-là, se sont ensuite déployées. Et c'était ces attributs qui ont été manifestés. Vous voyez, d'abord, c'est une pensée. Et ensuite, la parole est prononcée. Et Dieu prononce et dit que la lumière soit et la lumière fut. Il ordonne et ce qu'il prononce s'exécute et s'accomplit. Et existe. Vous voyez, ses pensées étaient déjà en lui. Et c'est ainsi qu'il les a prononcées. Et il était la manifestation de ce qu'il s'était proposé de faire, de tout ce qu'il avait pensé. Vous aussi, vous étiez depuis le commencement déjà en Dieu. Vous voyez, c'est tout lié déjà avec Dieu. Lui-même se révèle. Dieu est en tout. Et il n'est pas dans une interprétation, non. Comme il n'y a pas longtemps, je l'écoutais un homme qui me disait, « Frère Branham, tu as une fausse interprétation. » Je lui ai dit, « Mais pardon, qu'est-ce que tu as dit ? Mais qu'est-ce qui se passe avec les méthodistes alors, et les baptistes et les pentecôtistes ? Chacun dit de chacun qu'ils sont faux, qu'ils ont une interprétation. Mais est-ce que nous ne devons pas dire simplement que Dieu est son propre interprète ? Qui est l'homme qui voudrait s'imaginer interpréter Dieu et interpréter ce que Dieu dit ? Qui est cet homme ? Tel que Pierre le dit ici, nous étions présents. Nous l'avons entendu cette voix venant du haut des cieux. Alors que Dieu disait que la lumière soit. Alors la lumière fut. Il n'y avait pas besoin d'interprétation là-dessus. La lumière était présente. Et oui, alors qu'il disait que la lumière soit, la lumière fut. C'était l'interprétation. Dieu le disait et cela s'est accompli. Vous voyez, ça a été manifesté. Et la manifestation de ce que la parole de Dieu exprime était l'interprétation. Pourquoi est-ce que les hommes ne peuvent pas le voir? Que Dieu donne une promesse et qu'ensuite il l'accomplit. Vous voyez, et pour chaque génération, il a donné des promesses et il les accomplit. Vous voyez, le monde religieux a tout mélangé. Mais Dieu, lui, il envoie toujours de nouveau ses prophètes et la parole vient toujours aux prophètes et la parole est ensuite révélée. C'est la révélation de Dieu et la parole nous dit que c'est elle qui nous dit. Si les choses sont justes ou bien ne sont pas justes. Vous voyez, d'abord, Dieu fait une promesse, donne une promesse, et ensuite, il l'accomplit. Qui veut ensuite interpréter quelque chose? Qui veut ensuite expliquer quelque chose et dire que cela est faux? Dieu n'a pas besoin de quelqu'un qui interprète sa parole. Dieu lui-même accomplit ce qu'il a promis. Il veille sur sa propre parole. Et les promesses pour chaque âge, et toujours, même par les sept âges de l'Église, Dieu a donné des promesses et tout s'est accompli exactement tel qu'il l'avait dit. Vous voyez, car tel que Dieu, dans le prophète Esaïe disait, une vierge enfantera. Cela s'est accompli. Est-ce que cela avait besoin d'une interprétation? Qui pouvait interpréter cela? Non, Dieu avait dit, une vierge enfantera. Et cela s'est accompli. Qui veut interpréter cela? Non, Dieu lui-même a dit, et cela s'est accompli tel qu'il a dit. Mais l'Église était aveugle et ne l'a pas vu. L'Église ne l'a pas vu parce qu'elle avait ses propres idées, ses propres interprétations. Cela s'est accompli. Cela s'est accompli pas comme il l'avait attendu. Pierre a vu la confirmation. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai trouvé mon bon plaisir. Dieu lui-même interprète sa parole en laissant accomplir ce qu'il a promis. Et Christ est la parole. Christ était déjà en Noé. Bien sûr, Noé croyait et prêchait que la pluie tombera. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Non, Dieu l'avait dit par la bouche de son prophète et cela s'est accompli. Vous voyez, tout ce que Dieu a dit s'accomplit. Cela n'a pas besoin d'interprétation, non. Dieu a toujours dit, si quelqu'un est parmi vous, un prophète, par exemple, s'il vous annonce quelque chose et que cela s'accomplit, alors écoutez, prêtez l'oreille. Écoutez-le, car cela est en accord avec sa parole. Noé disait que la pluie tombera, et la pluie est tombée. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Esaïe a prophétisé, une vierge enfantera, et cela s'est accompli. Cela n'avait pas besoin d'interprétation. Noé et tous les prophètes, et ensuite nous pensons maintenant à Joseph. Joseph était un juste, un homme juste, et il ne voulait pas rendre la vie difficile à Marie, car elle était fiancée à lui. Et il ne voulait pas qu'elle ait une mauvaise réputation. Et autrefois, c'était comme ça. Si pendant le fiançage, il y avait quelque chose qui se passait comme s'ils étaient déjà mariés, la femme aurait dû être lapidée. Si dans le temps du fiançage, elle avait eu des rapports ou bien quelque chose avec un autre homme. C'était comme ça autrefois. Joseph, un homme juste, très juste, il croyait Dieu. Et elle regardait avec ses yeux fidèles. Elle a dit, regardez, Gabriel, l'ange m'a visité. Et Joseph avait seulement besoin de regarder dans les Écritures et de regarder où est-ce que cela avait été promis par Dieu. Et il devait comprendre que Dieu était en train d'accomplir dans sa vie la promesse qu'il avait donnée par la bouche d'Esaïe. Aujourd'hui, nous devons faire la même chose. Nous devons regarder dans la parole. Ce que Dieu fait semble étrange. Partout où Dieu fait quelque chose, ça semble étrange. Et c'est comme ça que ils ont toutes les choses telles qu'ils pensent les avoir, mais Dieu, lui, il vient toujours d'une manière inhabituelle et étrange. Ensuite, Dieu lui a parlé pendant ce temps de fiançailles et lui a dit en songe, « Ne, fils de David, ne crains pas de prendre Marie ta femme à toi, car l'enfant que tu attends vient du Saint-Esprit. » Et Dieu a parlé, vous voyez, avec Joseph. Et vous voyez, le songe, c'est la deuxième chose. Mais la chose la plus importante, c'est la révélation. Hein? Le songe, c'est quelque chose de secondaire. Et Dieu a toujours parlé de cette manière. Et ce songe de Joseph-là n'avait pas besoin d'être interprété. Il lui avait été dit clairement de quoi il s'agissait. Et il avait déjà la réponse dans son songe. Ça n'avait pas besoin d'être interprété. Et le dernier prophète avait déjà été mort il y a 400 ans d'ici. Donc c'était un songe que Dieu avait donné qui n'avait pas besoin d'interprétation. Et c'est comme ça que cela s'était accompli tel que la parole l'avait accompli. Dieu est son propre interprète. Et tous ceux qui sont sérieux dans leur cœur accepteront ces choses, ils le croiront et ils le verront. Dieu a une possibilité pour vous conduire dans l'accomplissement des choses qu'il fait et pour vous les révéler, pour vous les montrer. Dieu avait dit par Esaïe que une vierge enfantera et aucun homme avait le droit de donner une interprétation privée à cela, tel que Dieu l'avait dit, c'est comme ça que cela s'accomplit. Dieu était, il était donc la parole révélée, devenue chair. Vous voyez, Jésus disait, alors qu'il était sur cette terre, alors que les gens ne comprenaient pas son ministère, il a dit, mais sondez les Écritures. J'espère que je ne parle pas trop fort. S'il vous plaît. Écoutez, Jésus disait, sondez les Écritures, car ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez, Dieu avait donné la parole, mais ensuite, la parole a été révélée et confirmée. Et Dieu Emmanuel était là, car son nom signifiait merveilleux, prince de la paix, Père éternel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu avait parlé par David et par Moïse et par tous les prophètes. Mais maintenant, c'était Dieu lui-même qui était venu personnellement. Et ce fils qui fut né était Dieu avec nous. Vous voyez? Et pour cela, ils l'ont crucifié. Parce qu'il disait, tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Il était le Dieu au-dessus du sabbat. Il était le Dieu du sabbat et il le demeure. Il était prophète, mais plus qu'un prophète. Il était homme, mais plus qu'un homme. Vous voyez, c'était l'accomplissement de la parole. Et il pouvait dire, qui de vous peut me convaincre d'un péché? Les Écritures rendent témoignage de moi. S'il vous plaît, sondez les Écritures pour savoir si ici elles trouvent leur accomplissement, oui ou non. Comme il n'y a pas longtemps, je l'ai prêché il y a quelques semaines, la plupart vivent dans le passé. Mais à quoi est-ce que le passé nous sert? Vous voyez, à quoi est-ce que le passé nous sert? À quoi est-ce que ça nous sert de savoir ce qui s'est passé dans l'âge de Luther? C'était bien. Autrefois, c'était merveilleux. Ensuite, du temps de Wesley, de son temps. Ensuite, du temps du réveil de la Pentecôte. Mais nous sommes dans un autre âge, dans un autre jour. Nous continuons à avancer. Nous allons de l'avant. Nous ne pouvons pas regarder en arrière. Non. Nous allons de l'avant. Vous voyez? Aucune interprétation. Les choses qui se sont passées autrefois étaient bonnes, étaient bien pour l'époque d'autrefois. Vous voyez? Mais où est-ce que nous sommes aujourd'hui? Dans quel état nous sommes? Luther était dans les Écritures. Autant qu'il avait reçu de la lumière dans son âge, de les comprendre. Dans l'âge de Sardes, dans l'âge, il y avait Wesley, et tous comprenaient les Écritures selon la lumière qu'ils avaient reçue dans les différents âges, ensuite suivi le réveil pentecôtiste. Et regardez dans les Écritures ce qui a été promis pour aujourd'hui. Jésus nous dit encore aujourd'hui, sondez les Écritures. Moi, je crois que nous sommes très proches. Devant le retour du Fils de Dieu, il pourrait à chaque instant revenir. Et les Écritures nous le montrent dans quelle heure nous sommes arrivés. Vous voyez, nous le voyons. Nous voyons comment est-ce que tout est en train de prendre forme dans le concile écuménique et comment est-ce que les églises et les religions sont en train de former la marque de la bête et comment est-ce que le royaume romain est en train d'apparaître avec puissance. Nous voyons comment est-ce que tout cela prend forme. S'il vous plaît, marchez dans la lumière aussi longtemps que vous l'avez parmi vous. Car nous comprenons dans quel temps nous sommes arrivés. Vous voyez, le seul âge dans lequel Christ est à l'extérieur de l'Église, c'est l'Odyssée. Vous voyez, la Bible dit dans Apocalypse 3 qu'il est dehors. Il est dehors et qu'il frappe à la porte. Vous voyez? Hein? Dans le conseil, est-ce qu'il est dans les conseils de l'église? Est-ce qu'il est ici ou bien est-ce qu'il est à trouver là? Non! Il est dehors, devant la porte. Mais dans l'église, il y a la parole. Et la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Et elle pénètre. Et elle sépare. C'est ainsi que c'est écrit dans Hébreux, le chapitre 4. Jésus a autrefois discerné les pensées des cœurs des hommes. Et il a dit, il pouvait leur dire, qui est-ce qu'ils sont? Il pouvait dire à Simon, tu es Pierre. Le nom de ton père est Jonas. Vous voyez? Il pouvait savoir. Même Pierre aurait dû savoir ce qui était écrit, que Dieu vous suscitera un prophète de parmi vos frères. Il pouvait leur dire, tu es Simon. Ton père est Jonas. Vous voyez, des centaines d'années étaient passées sans prophète. Vous voyez, mais il a accepté cela. Et ensuite, mais Pierre l'a accepté. Et ensuite, de Philippe et de Nathanaël. Et Jésus disait, un vrai Israélite dans lequel il n'y a pas de fausseté. Vous voyez? Et Jésus disait, avant que Philippe t'ait appelé, moi, je t'ai vu sous le figuier. Et sa réponse a été, Rabbin, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Vous voyez? Jéhovah était présent. Vous voyez, les autres disaient, il est Belzébuth, il est ceci, ou bien alors il est cela, il est liseur de pensée, etc. Et il disait, si vous blasphémez contre le Fils de l'homme, cela vous sera pardonné. Mais quand le Saint-Esprit viendra et que la même chose se répétera, cela ne vous sera pas pardonné si vous blasphémez. La même chose a été annoncée à l'avance pour nos jours. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Pensez à cela. Jésus-Christ en Moïse, Jésus-Christ en David. David était monté sur la montagne en tant qu'un roi rejeté et il pleurait sur Jérusalem. Et ensuite, le fils de David est allé sur la montagne des Oliviers et a regardé Jérusalem et a pleuré et il a dit, « Oh Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule rassemble ses poussins. » Regardez, alors que Joseph, dans l'Ancien Testament, était en prison, et que Dieu lui avait révélé, n'est-ce pas, ces choses. Il n'a pas prêté l'oreille à la femme de Pharaon ou bien à tous ces gens. Vous voyez, c'était Jésus, c'était Jésus-Christ en Joseph. C'était Christ dans tous ces différents prophètes. Et vous savez exactement qu'autrefois, personne ne pouvait aller au Pharaon. C'était seulement par Joseph. C'est ainsi que personne ne peut venir à Dieu en dehors de Jésus-Christ et par Jésus-Christ. Et nous avons toutes ces images et tous ces symboles et tous ces symboles, vous voyez, et ces ombres, Dieu, vous voyez, est révélé dans sa parole. Et il disait autrefois, si tu es le roi d'Israël, personne peut faire ce que tu fais, si ce n'est que Dieu est avec lui. Mais ils étaient divisés dans leur concile et communique les uns avec les autres, ils disaient, Rabbin, nous savons qui était ce nous, qui sont ces nous. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Ils l'ont reconnu, mais ils étaient en division. Les uns avec les autres. Et c'est comme ça que Dieu, dans ses 46 ans, il a ébranlé cette nation par le baptême du Saint-Esprit. Il a fait des choses merveilleuses. Mais malgré tout, ils vivent dans le passé toujours. Qu'est-ce qui s'est passé? Méthodistes, baptistes, presbytériens, luthériens, qui que ce soit parmi ces gens, ils vivent dans le passé. Qu'est-ce qu'ils ont dit autrefois? Nous sommes les disciples de Moïse. Et Jésus disait, si vous aviez reconnu Moïse, vous m'aviez reconnu, vous auriez reconnu le temps dans lequel vous vivez. Et ce qui se passe maintenant, vous voyez, il est écrit sur cet âge, ce qui s'est passé dans le temps de Luther, dans le temps de Wesley, dans le temps des luthériens, tout cela est derrière nous. Dieu est maintenant dans lequel nous vivons, dans le temps dans lequel nous vivons. Celui qui interprète sa parole maintenant, en accomplissant ce qu'il a promis dans nos jours, et il confirme toujours de nouveau sa parole. Vous voyez, Jésus disait dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, verset 12, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera de plus grandes. » Est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a dit? Bien sûr qu'il a dit. Vous voyez, c'est Dieu qui parle avec nous par sa parole. Vous voyez, et ensuite il est écrit tel que c'était du temps de Lot. C'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Vous voyez, cela n'a pas besoin d'être interprété. Il pense ce qu'il dit et tel que cela était autrefois du temps de Lot. C'est ainsi que ce sera dans les jours du Fils de l'homme. Allons, repartons et regardons ce qui s'est passé du temps de Lot. Il y avait trois classes d'hommes, des véritables croyants, les soi-disant croyants et les incroyants. Et nous voyons, les sodomites étaient les incroyants. Lot était les soi-disant croyants et Abraham était les vrais croyants. Vous voyez? Et c'est ainsi qu'avec Abraham, Dieu, lui, il a fait une alliance avec lui. Et Abraham avait les promesses de Dieu. Et Abraham a été confirmé par Dieu. C'est ainsi qu'Abraham a attendu l'accomplissement des promesses de Dieu. Et il les a vues accomplies. Vous voyez, Abraham n'était même pas en Sodome, non. Il était à l'extérieur de Sodome. Il est une ombre de l'Église épouse dans ce temps. Et les dénominations dénominationnelles sont en Sodome, sont dans Sodome. Et nous savons que Lot a souffert parmi ce qui s'était passé dans Sodome. Il était un homme bon. Prenez des hommes aujourd'hui. Ils sont religieux. Mais regardez comment est-ce qu'ils s'habillent. Tous sont dans les différentes dénominations. Ils vont à la piscine, ils vont au cinéma, ils vont à leur disco et tout ça. Mais qu'est-ce qui se passerait si là la vérité serait prêchée parmi eux? Vous voyez, le péché doit être appelé de son nom. Abraham n'était même pas dans Sodome. Il était un type de l'Église spirituelle. Vous voyez, nous sommes dans la fin des temps. Comme autrefois le feu était tombé, le feu va tomber aujourd'hui. Et les royaumes de cette terre vont s'ébranler et s'écrouler. Et dans le feu ardent du ciel. C'est ainsi que cela a été écrit. Abraham était à l'extérieur de Sodome. Il n'était même pas dans Sodome. Non, il était à l'extérieur de Sodome. Cela est étrange, n'est-ce pas? Mais Lot était dans Sodome. Et ensuite, Abraham a vu trois hommes venir à lui. Il les a vus venir. Abraham était assis sous les térubins. Et peut-être que c'était l'après-midi, ou bien alors vers midi. Et il y a quelque chose qui était dans ces trois hommes. Et qu'il a remarqué. Oh, si cela pouvait se passer, que cela nous fasse remarquer qu'il y a quelque chose d'étrange et d'inhabituel qui se passe. Abraham disait, Seigneur, viens. Et il allait chercher de l'eau, il a lavé leurs pieds. Et ensuite, il a fait en sorte, n'est-ce pas, que un repas soit préparé. Et que Sarah fasse un gâteau et prépare le repas. Et tout s'est passé à la hâte pour l'apprêter. Et pendant qu'ils étaient en train de manger, cet homme regardait toujours en direction de Sodome. Et vous savez que les deux sont allés à Sodome. S'il vous plaît, ne manquez pas cela. S'il vous plaît. Je fais mention à ce que Jésus disait autrefois. Tel que c'était du temps de Lot. Qu'est-ce qui s'est passé? Lot devait être appelé à sortir. Qu'est-ce que c'était? Mais il y en a un des trois qui est resté avec Abraham. Hein? Les sodomites ont été frappés d'aveuglement. Je vous le dis. Quand l'évangile, si l'évangile est prêché à ceux qui ne croient pas, alors la prédication de l'évangile les aveugle. Mais Abraham, lui, il croyait la parole de son temps. Regardez l'histoire. Jamais il y a eu un temps où un homme serait apparu dans les églises nominelles, dominationales, dans le monde religieux, avec un nom qui est semblable à celui d'Abraham, avec H-A-M, qui se termine par H-A-M. Aujourd'hui, nous avons Billy Graham, mais ça, c'est seulement 6 lettres. Vous voyez? Et c'est vrai qu'il fait un travail merveilleux. Il est un serviteur de Dieu. Et il est parmi les dénominations. Et il frappe. Il n'y a pas longtemps, on voulait même le faire devenir président des États-Unis. Il a refusé. Il a dit qu'il ne peut pas le devenir. Qu'est-ce qu'aurait fait tous les sociétés de whisky et tout cela? Et tous ces sociétés qui gagnent des millions et des milliards de cette manière. Et toutes ces sociétés de cigarettes et toutes ces compagnies de tabac. Il a rejeté cette position. Mais ces deux-là sont allés en bas comme nos modernes évangélistes aujourd'hui. Nos évangélistes modernes. Vous voyez, ces deux-là sont allés à Sodome. Mais celui-là, le troisième des deux, qui était resté avec Abraham, lui a donné un signe. Auparavant, Abraham, écrit E-E-E, de manière courte, pas Abraham, mais Abraham. Et ensuite, à partir de ce temps, Abraham s'est appelé Abraham. Et Sarah, pas Sarahi, mais Sarah. Vous voyez? C'est ainsi que Dieu, autrefois, l'a conduit, l'a fait. Ici, nous avons quelque chose de spirituel. Écoutez, ce qui s'est passé. Abraham, 7 lettres, pas 6, vous voyez. Et ensuite, le Seigneur a dit, où est ta femme Sarah, dans la tente derrière toi? Et le Seigneur a dit, je reviendrai dans une année à la même époque et ta femme aura un fils. C'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Vous voyez? Et Sarah a ri en elle. Elle avait 90 ans. Et Abraham avait 100 ans. Et ils avaient plus de contact comme un couple jeune, là, vous voyez. Et elle a ri en elle. Et c'est ainsi que Dieu lui-même, en forme humaine, était assis là et regardait Abraham et a dit, pourquoi est-ce que Sarah a ri? Et Sarah était derrière lui dans la tente. Est-ce que ce n'était pas le même ministère que Jésus autrefois avait? Il pouvait dire à Pierre, qui est-ce qu'il est? Et comment est-ce que son père s'appelle? Il pouvait dire à Nathanaël, il pouvait dire à la femme au puits, donne-moi à boire. Et elle lui a répondu, nous n'avons pas de communion, de relation entre Samaritains et Juifs. Et l'entretien a continué. Et ensuite, il a dit, va chercher ton mari. Et elle a dit, je n'ai pas de mari. Et il a dit, oui, tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Mais ensuite, les sacrificateurs, de nouveau, ils ont critiqué et ont dit, non, cela, il sait toutes ces choses par un esprit satanique. Il devait toujours critiquer. Mais dans cette femme, il y avait une semence prédestinée et elle a cru, elle a accepté, elle a reconnu, bien sûr, qu'elle était une prostituée, mais elle a reconnu Jésus. Et ensuite, elle a dit, nous savons que quand le Messie viendra, il nous dira toutes ces choses. Mais toi, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui parle avec toi. Je le suis. Cela n'avait pas besoin d'être interprété. Non, cela a été révélé à cette femme. Il était celui qui parle avec toi. L'Écriture s'est accomplie par lui, était accomplie en lui. La parole promise pour le temps d'autrefois a été accomplie. Il avait été dit que le Seigneur, votre Dieu, susciterait de parmi vos frères un prophète. C'est ainsi que Moïse avait dit. Et elle est allée dans le village. Et elle a dit, est-ce que cela n'est pas Christ, n'est-il pas le Christ que j'ai trouvé? Il m'a un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et qui sait tout sur moi. Vous voyez, Jésus autrefois. Et ensuite, tel que le Seigneur autrefois avait tourné son dos à la tente, il pouvait dire à Sarah qui était derrière son dos qu'elle arrive, comme on le lit dans Hébreux chapitre 4, la parole est plus tranchante qu'une épée à deux tranchantes. Elle pénètre jusqu'à ce qu'elle sépare tout. Il vint, il était la parole et il est la parole. Et il connaît les pensées du cœur. Il a été autrefois manifesté tel que cela a été écrit de lui. Vous voyez, il était la plénitude de la parole. Et Jésus-Christ disait, tel que c'était du temps de Lot, c'est ainsi que ce serait dans les jours du Fils de l'homme. L'Esprit de Dieu, de nouveau, agira de cette manière sur terre. L'Esprit de Dieu agira de cette manière sur terre, par une chair humaine. Vous voyez, ce que Dieu a fait autrefois en forme humaine, il a de nouveau répété jusqu'à ce que le Fils promis vint. Vous voyez, promis, le dernier signe qui devait s'accomplir avant que le Fils promis viendrait. Vous voyez, l'Église spirituellement doit, dans ce temps, l'Église spirituelle dans ce temps doit le reconnaître. L'Église spirituelle de notre temps doit le reconnaître. Il y en a qui diraient, mais frère Branham, est-ce que tu crois que c'était Dieu, Elohim, du temps d'Abraham? Ça n'a pas besoin d'être interprété. Elohim, le Dieu Tout-Puissant, le premier et le dernier, Elohim, Abraham l'a appelé le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Et cela est écrit en grand caractère, en majuscule. Elohim. Révélé, manifesté en forme humaine, Dieu avec nous. Elohim. Emmanuel. Vous voyez? Et dans les derniers jours, Dieu voulait de la même manière se révéler. Vous voyez? Et Jésus disait, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Et comme autrefois c'était, c'est ainsi que ce sera encore dans les jours, quand le Fils de l'homme se révélera. Tel que c'était du temps de Sodome et de Gomorrhe, du temps de Lot et de Noé, c'est comme ça que ce sera de nouveau. Est-ce que vous croyez cela? Alors nous voulons courber les têtes. Peut-être que nous pouvons nous lever. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta promesse. Nous te remercions pour tes promesses en général, dans leur entièreté. Nous te remercions de ce que autrefois tu as accompli. Cette promesse disant qu'une vierge enfantera un fils, et cela s'est accompli. Et il fut né à Bethléem, en Judée. Oui, c'est ainsi que cela est écrit, et c'est ainsi que cela a eu lieu. De toi apparaîtra celui qui sera Seigneur en Israël. Et il fut crucifié, comme l'Écriture l'avait annoncé, meurtri pour nos transgressions et iniquités. Notre jugement, notre condamnation fut mis sur lui, et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Et il est ressuscité, selon les Écritures, ressuscité avant que la corruption puisse venir sur son corps, dans son corps. Vous voyez, nous croyons la parole, car c'est ainsi que c'était écrit dans le psaume 16. Je ne permettrai pas que mon bien-aimé voie la corruption. Vous voyez, nous croyons que ce soir, il est présent, et que ce soir, il bénit, et que ce soir, il est le même. Et nous voulons nous tenir à ta disposition, avec notre esprit, notre âme et notre corps. Et que nous puissions expérimenter parmi nous Jésus-Christ en tant que le même, qu'il y ait un désir si ardent en nous comme autrefois parmi les Grecs, alors qu'ils voulaient voir Jésus. Seigneur, tu es le même, tu l'as promis, nous avons faim et soif de ta gloire, de voir ta gloire, ô Dieu. Tu as donné la promesse. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Le même hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Ta parole le dit. Oh, que cela ait lieu ainsi, nous le croyons. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous avez remarqué que j'ai suivi dans la brochure le texte pour avoir les deux, le son dans les oreilles, ce qui est dit, et ensuite devant moi, ce qui est écrit. C'est merveilleux, bien aimés frères et sœurs, de ce que Dieu, de cette manière, peut descendre et de cette manière utiliser des hommes à son ministère, dans son ministère, à son service, sous la directe conduite de son esprit, et que réellement nous sommes ramenés dans les jours de la Bible. Imaginez-vous que nous aurions seulement un rappel à ce que Dieu a fait autrefois. Seulement un rappel. Ça, tous les prédicateurs l'ont, ça, tous peuvent le prêcher partout. Ce que Dieu a fait du temps de Moïse, tous peuvent le prêcher. Et dans les différents âges, tous peuvent le prêcher. Mais ce qui est important pour nous, c'est de reconnaître la parole de l'heure contenant les promesses pour ce temps dans lequel nous vivons, de les trouver et ensuite de les reconnaître dans leur et les observer dans leur accomplissement. Frère Branham, ensuite, n'est pas venu à parler de ce texte qu'il a lu de 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Mais de ce texte, ouvrons-le à partir du verset 16. Il a lu à partir du verset 16. 2 Pierre, chapitre 1, verset 16. Ce texte est vraiment devant nos yeux, devant nous, un texte, un passage que nous avons toujours de nouveau lu et que nous pouvons toujours de nouveau lire. Parce qu'il s'agit ici du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et ensuite, l'explication. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De Pierre, chapitre 1, verset 16. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé dans un livre. Il est prétendu dans ce livre que le Seigneur serait revenu déjà en 1963. Ils connaissent même la date. C'était le 28 février. Et la Bible dit que personne connaît le jour et l'heure. Et ensuite, la Bible dit aussi que quand le Seigneur reviendra, nous serons sortis de la corruption et serons transformés dans l'incorruption, dans l'incorruptibilité, et nous serons transformés et irons à la rencontre du Seigneur dans les airs pour être auprès de lui pour toujours. Et bien, mes frères et sœurs, nous ne voulons pas ici entrer dans les détails, mais quand nous pensons à tout ce qui est raconté comme fable, en relation avec le retour de Jésus-Christ, tout ce qui est raconté comme fable, tout ce qui existe comme fable, alors on doit simplement, de tout notre cœur, remercier le Seigneur de ce que nous avons la sainte parole de Dieu, que nous recevons avec tout le respect de tout notre cœur, la croyons. Et c'est ainsi que nous la croyons et l'observons et la voyons dans son accomplissement tel que cela nous est décrit, que cela concernerait le retour du Seigneur ou bien tous les autres sujets. C'est merveilleux de respecter la parole, simplement. Mais ici, Pierre a dit aussi quelque chose de plus, et a pu dire encore quelque chose de plus, au verset 17. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fut entendre une voix qui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ça, c'est pas tout. Ensuite, Pierre écrit ici, et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Bien-aimés frères et sœurs, Pierre, Jean, Jacques étaient des témoins oculaires, de ce qui se passait là. Et c'est peut-être raison qu'ils avaient cette certitude, qu'ils avaient cet absolu, pas seulement de transmettre ce que des témoins oculaires et des témoins de Dieu ont dit, ayant entendu et vu eux-mêmes, pas pour répéter ce que d'autres ont dit, mais ils étaient eux-mêmes des personnes qui avaient vu et entendu, qui étaient dans l'endroit quand cela s'accomplissait. De manière que ils pouvaient aussi dire, nous aussi, nous avons entendu cette voix alors que nous étions avec lui sur la sainte montagne. Les vrais serviteurs de Dieu sont présents quand des choses surnaturelles sur terre se passent. Et nous l'avons toujours de nouveau dit en insistant. Zacharie était présent quand l'ange Gabriel vint et lui donna la promesse que Jean naîtra. Il pouvait dire qu'il était assis à la droite de l'autel des holocaustes. Il pouvait répéter toutes les paroles de l'ange. Les vrais hommes de Dieu tous ceux qui sont en relation avec l'histoire du salut sur cette terre, avec l'accomplissement du salut sur cette terre, reconnaîtront ce que Dieu a promis dans leur, pour leur époque. Et je le dis, nous n'allons pas quitter cette terre sans avoir été témoins oculaires de ce que Dieu nous a promis dans sa parole. Sans avoir été témoins de l'accomplissement de ces choses. Dieu veille toujours sur sa parole, même si cela dure, mais il ne vient jamais trop tard. Et nous avons vraiment trouvé la grâce d'entendre, d'apprendre que Dieu dans notre, ce que Dieu a fait dans notre temps, et d'apprendre, d'entendre comment est-ce qu'il s'est révélé, il est descendu dans la colonne de feu, et comment est-ce qu'il a parlé, et comment est-ce qu'il a lui-même accordé un mandat et un envoi. Et il a été clairement dit ce qui serait lié au ministère et comment est-ce que l'attention du peuple de Dieu serait attirée sur le message que l'homme de Dieu apporterait. Pas sur lui, l'homme, mais sur son message, sur le message. Et il faut que cela soit dit ouvertement. Celui qui lit dans l'Ancien Testament pourra constater qu'il ne s'agissait pas du messager, qu'il s'agissait toujours du message. Et là où un messager est glorifié, est placé au milieu, au centre de la prédication, là où tout, là où il s'agit toujours de lui, ça veut dire que les gens là ne pourront plus sortir de cette danse autour d'un bélier. Mais là où Dieu peut attirer notre attention sur sa parole, sur son message divin, et comme nous l'avons ce soir entendu, il s'agit des promesses. Dieu veut attirer notre attention sur ce qu'il a promis. Dieu est son propre interprète. Vous voyez, avec Matthieu 25, qui veut ici interpréter quelque chose? Et avant Matthieu 25, il y a Matthieu 24, où il est parlé de la distribution de la nourriture que Dieu nous a donnée avant que l'époux revienne. Est-ce que vous savez que les chapitres ont été mis dans la Bible seulement dans le 16e siècle et que les versets ont été mis à leur place comme ça en dans l'année 1535, la Bible était sans versets, sans chapitres, c'était des rouleaux. La Bible était écrite sans chapitres et sans rouleaux, sans versets. C'est seulement quand la Bible a été interprétée dans d'autres langues, c'est là que les chapitres sont venus, c'est là que les versets ont existé. Mais en fait, ça c'est très important. Quand on lit, par exemple, Genèse, les premiers chapitres, par exemple, si on lisait Genèse chapitre 3 et chapitre 4, sans qu'il y ait un chapitre, comme ça directement, sans penser entrer dans un autre chapitre, il n'y aurait pas de problème pour comprendre ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, comment est-ce que la chute de l'homme a eu lieu et comment est-ce que les choses ont continué. Mais l'Esprit de Dieu, lui, malgré les chapitres, nous a conduits dans toute la vérité et nous a réellement introduite dans sa parole. Et c'est peut-être raison que même le partage des chapitres et des versets, malgré tout cela, le Saint-Esprit, lui, nous conduit dans toute la vérité. Et nous voyons les contextes. Et ensuite, au verset 19, il est dit que, dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 19, « Et nous tenons pour d'autant plus certain la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention. » La parole prophétique, tous l'ont, mais dans la Bible, à la maison, dans les églises, tous l'ont, en forme écrite. Mais à qui est-ce qu'elle a été révélée? Qui est déterminé à reconnaître l'orientation que Dieu donne par sa parole? Devenons un peu plus clairs. Imaginez-vous que frère Branham, qui ne lui aurait pas dit d'emmagasiner la nourriture. C'était l'ordre qui lui avait été donné, c'était l'ordre, parce qu'il avait ce mandat. Je l'ai écrit dans la lettre circulaire. Pas une unique fois, il a dit qu'il avait été mandaté à distribuer la nourriture. Et je le dis très... Sincèrement, si le ministère de Frère Branham était allé vraiment à sa fin, dans les années où il le prétendent, on ne serait pas assis aujourd'hui ici et personne n'aurait su réellement ce qui s'est passé. Si rien d'autre ne s'était passé après le ministère de Frère Branham et que tout était terminé dans le royaume de Dieu, le 24 décembre en 1965, alors on ne serait pas assis ici aujourd'hui. Mais Dieu, lui, avait un plan pour l'Église. C'est comme ça que Dieu a permis que tout continue et que dans le monde entier, la parole de Dieu est propagée. Et il y a des frères dans le monde entier qui ont part à la même parole et qui la distribuent dans leur pays. Et d'une manière particulière, Dieu a appelé et a envoyé Frère Branham. C'est-à-dire, pour qu'une église soit appelée à sortir, mise à part, préparée. Et comme nous l'avons dit hier, aujourd'hui, il ne s'agit plus de se disputer sur les différents sujets. Aujourd'hui, il s'agit que nous soyons préparés. Et concernant cela, Dieu voulant, demain matin, nous allons encore devoir parler de cela, car j'ai l'intention aussi de traduire une courte prédication de Frère Branham que j'ai traduite aussi à Zurich, dimanche matin à Zurich, la semaine dernière. J'ai l'intention de la traduire aussi demain pour vous représenter devant les yeux comment est-ce que la rédemption est parfaite. Pour vous montrer comment est-ce que le plan de Dieu est parfait. Pour vous montrer comment est-ce que, de la part de Dieu, tout est déjà ordonné et que, dans cet ordre divin, nous avons la grâce de nous soumettre dans la foi et dans l'obéissance et de nous laisser introduire et soumettre. Résumons. Dieu est son propre interprète. Et souvent, nous avons eu à le dire. Et le docteur Lackner l'a dit avec, en faisant attention, alors qu'il disait que 109 prophéties lors de la première venue du Christ se sont accomplies. Et malgré tout, les scribes et pharisiens ne l'ont pas vu, n'ont pas reconnu. Ils ont enseigné les autres. Ils ont, n'est-ce pas, expliqué les choses aux autres, mais eux-mêmes, ils n'ont pas compris qu'autrefois, les prophéties bibliques, d'une manière si multiple, étaient confirmées et s'étaient accomplies. Ça aussi, Frère Branham l'a mentionné très rapidement de Luc chapitre 19, où le Seigneur réellement était allé sur la montagne des Oliviers et avait pleuré. Simplement pleuré et il a reproché, particulièrement au verset 44, Luc 19, verset 44, et ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Imaginez-vous, le Rédempteur, le Sauveur, l'amour de Dieu révélé, manifesté. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et ici, lui qui est l'amour de Dieu en personne, lui qui est Dieu en personne, il doit ici prononcer un jugement et dire, ils te te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Luc 19, verset 44. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Bien-aimés frères et sœurs, comment est-ce que ce sera pour l'Église qui restera dans la, et qui ne sera pas enlevée? Comment est-ce que ce sera pour ceux qui devront passer par la grande tribulation? Et pourquoi? Ils devront passer parce qu'ils n'ont pas reconnu le temps de leur visitation. Ils ne l'ont pas reconnu. De l'Écriture, ils ne l'ont pas reconnu. Et ça, c'est la grâce que Dieu nous a donnée. Je l'ai toujours dit ici, la parole de Dieu est révélée maintenant à tous ceux qui l'écoutent. Il n'y a pas un frère qui a besoin d'enseigner l'autre. Tous, pendant que nous écoutons la parole de Dieu et que dans la foi nous l'acceptons, nous la recevons, elle nous est révélée. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans les mystères les plus profonds de la parole de Dieu. Mais écoutez encore cela, notre Seigneur qui est venu pour mourir pour les siens, pour donner sa vie, mais ici était l'introduction. Ici, il fallait que tout cela, tout ce qui avait été annoncé à l'avance s'accomplisse. Son ministère devait s'exécuter. Et tous se sont heurtés à son ministère. Et les scribes et pharisiens ont fait en sorte que le peuple soit retenu. Ils ont désigné notre Seigneur de toutes sortes de titres. Mais le Seigneur ensuite a dit: ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Pas une pierre restera sur l'autre. Je me demande, avec tout le sérieux, qu'est-ce qui va se passer après la grande... Qu'est-ce qui restera encore après la grande tribulation? Qu'est-ce qui restera encore? S'il est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, au verset 10, quand cela s'accomplira, et encore tous les autres versets, qu'est-ce qui restera encore? Que le jour du Seigneur brûlera comme un four ardent, et que tous les méchants, comme Zacharie l'a dit, seront comme de la paille. Qu'est-ce qui restera? Pourquoi est-ce que des hommes ont cru pour avoir... pour ne pas croire à ce que Dieu a promis? Pourquoi est-ce qu'ils sont croyants? Est-ce qu'ils sont croyants pour mépriser ce que Dieu a promis, ou bien pour croire à ce que Dieu a promis, pour avoir part à ce que Dieu a promis? Pourquoi est-ce que nous sommes croyants? Nous sommes croyants, c'est pour croire, pour marcher sur le chemin de la foi, pour reconnaître ce que Dieu a promis et pour prendre part à l'accomplissement de tout ce que Dieu a promis et pour le voir. Ça, c'est la grâce de l'élection pour laquelle nous n'avons rien fait, mais c'est quelque chose que Dieu nous a accordé simplement. Nous voulons encore lire la parole des dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, pour nous montrer que le temps est arrivé pour aller de l'avant, pour ne pas encore commencer à poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, etc. Mais d'aller aux choses parfaites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Seulement encore ici pour finir dans Hébreux chapitre 6, au verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la loi, foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, etc., etc. Donc, ne pas encore revenir au fondement ou bien alors aux chaussures de nouveau-nés. Non, aller de l'avant, grandir en Christ, aller de l'avant jusqu'à atteindre la stature parfaite. Vous savez que le blé ne peut que être moissonné quand il est mûr. Quand il est mûr. Et l'Église doit réellement atteindre cette stature parfaite, mûre en Christ, dans l'obéissance parfaite de la foi, croire seulement comme la parole de Dieu le dit et l'exige de nous. C'est ainsi que je relis Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, etc. Si nous disons que le retour de Jésus-Christ est réellement très proche, ça ne peut pas être autrement. Les signes des temps parlent un langage clair, un langage plus que clair. C'est peut-être raison que nous sommes reconnaissants à Dieu, comme déjà mentionné auparavant, notre Seigneur disait, justement après Matthieu 24, verset 24, que même si c'était possible, les élus aussi seraient séduits. C'est justement après ce verset-là qu'il dit, « Je vous ai annoncé toutes choses à l'avance. » Matthieu 24, verset 25. Fondamentalement, il a dit tout à l'avance à ses disciples, tout ce qui viendrait concernant la grande apostasie, les faux Christ, les faux prophètes. Fondamentalement, tous les différents domaines ont été touchés par lui et annoncés à l'avance, et écrits à l'avance. Tout a été dit à l'avance. Et nous avons réellement une orientation divine dans la parole de Dieu, par la parole prophétique. Et encore plus, nous avons l'introduction par le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que vous êtes reconnaissants pour cela? Reconnaissants de ce que Dieu réellement nous a accordé la grâce. Comme en américain, on dit « up to date », pour être « up to date », donc pour être actuel, pour être à la page, n'est-ce pas, dans le royaume de Dieu, pour ne pas être en retard. Et nous ne disons pas ces choses en nous élevant au-dessus de quelqu'un. Non, au contraire, avec un cœur humble et reconnaissant, nous ne voulons pas regarder en arrière comme la femme de Lot, pour ensuite devenir une statue de sel. Non, mais nous voulons suivre, prêter l'oreille à l'appel divin. Et bien sûr, ici, nous pouvons repartir à Ésaïe 57, tel que cela, dans la parole d'introduction, nous a été lu. Ésaïe 57. Deux versets ont été lus. Ésaïe 57, lisons encore une fois, à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Et il ordonnera par un homme, l'homme peut apporter le message, pas simplement, on dira, mais il ordonnera, frayez, préparez le chemin. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Ça, c'est l'ordre du Seigneur. Et cela a eu lieu par le message de l'heure. Tout obstacle a été enlevé. Et l'accès a été frayé pour le peuple de Dieu à la vérité de Dieu sur tous les différents sujets, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le retour du Seigneur, sur le souper du Seigneur. Tout a été placé sur le chandelier. Et ensuite, cela continue. Au verset 15, « Car ainsi parle le Très-Haut, pas Ésaïe, pas quelqu'un, mais Dieu le Seigneur, lui ici, a parlé, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Dieu a parlé, le Très-Haut a ordonné, le Seigneur a parlé, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. pas d'orgueil, pas de petites séquelles de cela, mais être humble, humilié, humble dans la présence de Dieu, dans sa présence, d'être simplement reconnaissant, et ensuite, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Soyez sincères, bien-aimés frères et sœurs, que dans toutes les familles, dans toute la parenté et la connaissance, il y a des problèmes partout. Partout où on pourrait regarder autour de nous, il n'y a que des problèmes. La plupart des croyants portent une douleur sur ce qui est encore entendu et vu. Et ici dit le Seigneur, afin de ranimer, encore aujourd'hui, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Et ensuite, encore une fois, adressé à nous tous, car je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites, en allemand sinon, devraient tomber en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons dans cette parole de la consolation, nous avons de l'encouragement, nous avons de l'enseignement et de l'instruction, nous avons réellement tout ce que Dieu pouvait nous donner. Et ce qui est merveilleux, c'est que nous avons la grâce de prendre part à l'introduction dans son dessein et pas comme ça d'être observateur de choses de l'extérieur, mais en tant que gens de sa maison, des citoyens de la maison de Dieu, nous avons la grâce d'être dans ces choses-là et de prendre part à ce que le Seigneur fait et de voir de quelle manière il parle avec son peuple et comment est-ce que il a son chemin dans ce temps avec nous. Et nous souhaitons à tous dans le monde entier, réellement à tous, ceux qui appartiennent à l'Église épouse, qu'ils puissent prêter l'oreille à l'appel de l'époux et suivre son appel, répondre, et comme tel que c'est écrit, et se laisser préparer pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Pensez à la prédication que nous avons entendue. Dieu est son propre interprète. D'abord, il donne des promesses et ensuite, il les accomplit. Il accomplit ce qu'il a promis. Et nous sommes enfants de la promesse et nous croyons la parole de la promesse. Et c'est ainsi que nous allons voir tout ce que Dieu a promis, accompli, tout ce qu'il a promis dans sa parole. Car c'est ainsi que c'est écrit dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, au verset 20 et 21. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen par nous, pour sa gloire. Dieu accomplit sa parole. Il confirme sa parole et il fait ce qu'il a promis. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la reconnaissance apportée de tous nos cœurs et de toutes nos bouches. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Je voudrais demander, si nous avons des requêtes particulières aujourd'hui, que nous puissions maintenant courber les têtes dans la prière, persévérer devant le Seigneur, notre Dieu, mais dans la foi, regarder à Dieu et croire que Il ranime les esprits humiliés et qu'il console ceux qui sont attristés et qu'il ne garde pas sa colère pour toujours et qu'il n'est pas rancunier, mais que c'est par le sacrifice qui a été apporté sur la croix à Golgotha que nous avons été délivrés et que nous pouvons être entièrement libres, entièrement sauvés, rachetés, délivrés, guéris dans les meurtrissures de Jésus-Christ notre Seigneur. Et maintenant, une parole adressée à tous. Dans les familles et dans votre cercle d'amis et vos parents, acceptez cela de la main du Seigneur lui-même, que dans cette année, de la première réunion jusqu'à la dernière, il bénira et qu'il confirmera sa parole, il exaucera les prières et qu'il changera tout. Croyez-le de tout votre cœur. Et Dieu, par sa grâce, va le faire. Pendant que tous courbent leur tête dans la prière et ferment les yeux, mais ouvrent leur cœur devant Dieu et parlent avec Dieu pendant que nous sommes ainsi dans la présence de Dieu et que nous demeurons dans sa présence, que tous ceux qui ont une requête puisse lever la main pour que nous puissions ensuite réellement apporter cette requête devant le trône de Dieu. Partout, les mains se lèvent. Partout, les mains se lèvent. Dieu Tout-Puissant, par Golgotha, l'accès au trône de la grâce nous a été ouvert. Comme grand sacrificateur, avec ton propre sang, tu es entré dans le sanctuaire céleste. Et là-bas, tu as accompli la rédemption. En tant qu'agneau de Dieu, tu es mort. En tant que grand sacrificateur, avec ton propre sang, tu es entré dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi que tu es médiateur de la nouvelle alliance. Bien-aimé Seigneur, nous sommes ton peuple de l'Alliance. Nous sommes le troupeau racheté par ton sang. Nous sommes ton épouse qui maintenant est appelée à sortir de tous les peuples, les langues et les nations. Tu vois les problèmes dans lesquels chacun pourrait se trouver, aussi des familles, des parents et des cercles d'amis, quoi que ce serait. Et qui est-ce que ce serait? Ô Seigneur, ainsi nous te demandons, à cause de ton sacrifice, interviens toi-même. Du premier jour, de la première réunion déjà, tu as en nous créé la foi à toi, la foi en tes promesses, en ta parole. Et tu nous as accordé le libre accès à tout. Ainsi, nous te demandons, accorde à mes frères et à mes sœurs, accorde-moi la foi que tu as répondu, que tu as exaucé et que tu as aidé déjà, que tu as secouru, que tu as sauvé, que tu as délivré, que tu as guéri et que tu as confirmé ta parole par ta grâce. Alléluia. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons louange et adoration et ensemble nous louons la puissance de ton sang. de ta parole et de ton esprit. Et nous te remercions de ce que parmi nous, tu es présent et que tu confirmes ta parole et que tu as béni ton peuple dans le monde entier et que partout tu es présent, partout où ton peuple en ton nom est rassemblé. Bénis avec nous tous les frères, toutes les sœurs, de tous les continents, dans tous les pays, toutes les langues, les nations, et que ce jour puisse porter du fruit pour toute éternité, et que ce jour soit le jour que tu as fait pour nous. Je te remercie, bien-aimé Seigneur, de ce que tu as ouvert notre intelligence pour les Écritures, particulièrement pour la parole prophétique. Tu as ouvert notre intelligence et que nous avons la grâce de mettre à leur place les prophéties bibliques dans la parole prophétique et aussi dans leur accomplissement devant nous. Bénis ton peuple. Fais grâce que tu puisses toi-même prendre toutes choses entre tes mains telles que nous l'avons lues et confirme-toi. Manifeste-toi. Agrète ton église, particulièrement ton église épouse. Fais-lui grâce. Et sois avec nous et avec tous nos frères et nos sœurs dans le monde entier. À toi, le Dieu Tout-Puissant, nous disons louange dans le saint nom de Jésus. Alléluia. Amen.